Chapitre 25. 1960.
12 mois qu'elle est en apprentissage chez Mokhtar. 12 mois que tous les dimanches matins, Blaise vient la chercher. Pour remonter au château, il faut 20 minutes à bicyclette. Colette s'assied sur le porte-bagages. La dernière montée est tellement raide qu'ils descendent et marchent à côté du deux roues en pressant le pas. Pendant que les sénéchals sont à la messe, Colette et Blaise en profitent pour entrer dans le château. En montant l'escalier, Colette perçoit au loin les notes de musique. C'est une douce ascension avant de retrouver Jean derrière le piano. Pousser la lourde porte qui le sépare du reste du monde. Depuis 1 an, elle mesure ses progrès. Elle s'accroche à la rambarde pour ne pas laisser ses mains trembler. Nul besoin de connaître la musique pour déceler le talent de son frère. Dès qu'il l'aperçoit, il se jette dans ses bras. « Écoute, Colette, Chopin, Nocturne, opus 9, numéro 2, en mi bémol majeur. » Il ouvre son cahier solennellement, le pose devant lui, se concentre et commence à jouer. Sa langue passe de la commissure gauche de ses lèvres à la droite, et il garde les yeux fixés sur la partition. Blaise ignore s'il fait semblant de lire ou s'il joue à l'oreille. Jean aurait préféré continuer à reproduire les notes. Mais s'il veut poursuivre, progresser, il faut passer par le solfège.
« C'est quoi progresser? Moi je veux jouer, c'est tout.
Tu veux jouer tous les jours ?» l'interroge Blaise.
« Oui.
Alors déchiffre cette partition. » Et chaque soir, après l'école, il répète. Croche, dièse, trois temps, double croche, quart de soupir, ronde. Lorsque Jean, fatigué, se décourage, Blaise lui explique qu'il s'agit là d'une langue universelle et splendide.
« Ça veut dire quoi, universelle ? Que tu peux jouer sur la lune ?»
Fascinée, Colette observe les mains de son frère courir sur les touches. Ses doigts les effleurent comme des gouttes de pluie. Madame de Sénéchal a répété plusieurs fois à la mère « Il faut que je vous parle, Georgette. Votre fils est un enfant prodige. » La mère a entrouvert la bouche, ne comprenant pas ce que madame lui racontait. Elle n'a pas osé demander ce que ce mot signifiait. Elle a juste répondu « C'est vrai qu'il est un peu agité. Je vais le gronder. » Alors, sans se moquer, la marquise lui a souri de toutes ses belles dents blanches et aussi parfaitement alignées que ses colliers de perles.
« Mais non, Georgette, Jean est infiniment doué pour la musique. »«
Ah, ça »
a-t-elle lâché, honteuse, se triturant les doigts, ne sachant plus quoi dire.
« Mais pourquoi ?» se questionne la mère. « Pourquoi mon fils serait-il doué pour la musique ?» Est-ce un sortilège? Un mauvais sort? Le malin?
Elle a peur des gens de petites conditions qui se font remarquer. Ce sont les patrons qui ont le droit. Ce sont le marquis et la marquise. Pas les septembre, pas eux. Et Jean ne fait que cela, se faire remarquer. Elle maudit le piano. Elle maudit le fait que son fils pénètre tous les jours dans le château comme si c'était chez lui. Alors qu'elle illustre les meubles et la vaisselle. Savonne les carrelages, brique la cuisine.
Et lui, qui se comporte comme un prince en sa demeure. Elle voudrait que son fils se tienne à carreau, poursuive des études normales, fasse un métier manuel, comme Colette. Qu'il reste à sa place, dans la maison de fonction qui leur est destinée, de l'autre côté des hauts murs.
Jean est un cas d'école, Georgette. Vous voyez, la guerre a eu ça de bon. Le piano qu'un Boche a abandonné dans le château. Vous savez comme je crois en Dieu? Votre fils a le don de Dieu.
Eugénie de Sénéchal lit la panique dans le regard de Georgette. Ses yeux semblent chercher et voir quelque chose qui la terrorise dès qu'elle aborde le sujet. Alors elle n'insiste pas. Mais elle ne peut se résoudre à abandonner Jean.
Il faudrait qu'il progresse, qu'il parte sans doute chez un professeur. Mais comment persuader sa mère et son mari, qui supporte de moins en moins la présence du petit musicien, son mari qui est de plus en plus triste et taciturne, s'emportant lorsqu'il entend le piano.
C'est pas un peu fini, ce bordel? Je peux être en paix sans avoir à subir le rejeton des autres? Déjà que le mien, le seul qu'on a réussi à faire, a des manières. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Il a été bien trop couvé.
Blaise est juste sensible.
Trop sensible.
Lorsqu'il prononce ces mots, elle est mortifiée. Il est premier en classe.
C'est pas ça qui fait un homme.
Elle repense au jour de leur mariage, à son beau regard sombre plongé dans le sien. Comment son doux mari a-t-il pu changer à ce point? Et pourquoi? À moins que ce ne soit elle qui n'ait pas suffisamment prêté attention à ses sautes d'humeur. Il faut que Jean quitte le château et qu'elle lui trouve un professeur de musique pour le préparer au Conservatoire national. Elle doit encourager le talent du jeune garçon. Sinon, ce serait comme assassiner Dieu. Elle se sent investie d'une mission. Cela coûtera de l'argent, mais elle n'est pas obligée de passer par son mari pour prendre en charge les études de Jean Septembre. Elle dispose d'économies personnelles. Son notaire pourra procéder à un virement pour les frais sans que son mari en sache rien. La marquise a rendez-vous à Lyon dans 3 semaines avec un ami, un professeur extraordinaire qu'elle a rencontré après la guerre. Elle a menti au marquis. Elle a prétendu qu'elle devait s'y rendre pour des examens médicaux et que Georgette et la petite Danielle l'accompagneraient par le train. Il a haussé les épaules en maugréant.
« C'est comme tu veux. »
Puis, il s'est ressaisi.
« Tu es souffrante ?»
Des maux de tête récurrents. Le médecin souhaite que je consulte un neurologue. Cela le tranquillisera.
« C'est ce foutu piano que les gosses ne quittent plus. »
Mais non, leur musique m'enchante.
Si tu le dis.
Elle et le marquis font chambre à part depuis la naissance de Blaise. Parfois, il frappe à sa porte au milieu de la nuit, réclamant un câlin en prononçant des mots inaudibles. Il retrouve alors sa douceur. Ils font l'amour en silence. Lui, si rustre, s'adoucit, baise ses lèvres, sa nuque, ses cuisses, voluptueusement. Puis, une fois habillé, il quitte la chambre sans se retourner, presque honteux de sa présence près d'une femme. La sienne, pourtant. Le dimanche, après avoir écouté Jean, Colette, troublée et portée par le génie de son frère, retrouve la mère. Blaise l'accompagne, abandonnant Jean derrière le clavier qui s'aperçoit à peine de leur départ. Il la laisse devant les cuisines, où Georgette aide à préparer le déjeuner dominical. Colette la salue, puis épluche les légumes, prépare les assiettes et les couverts, ainsi que le dressage des plateaux. Daniel, qui a 2 ans, ne quitte pas les jambes de la mère. Colette lui tend les bras. « Tu viens embrasser ta grande sœur ?» L'enfant pleurniche, ce qui fait sourire Georgette.
« C'est ta tignasse qui lui fait peur !»
Mère et fille n'ont rien à se dire. Colette fait un effort et donne des nouvelles de son travail, du certificat qui approche. Mais jamais elle n'évoque devant elle sa terreur du temps qui passe. Elle devra quitter Mokhtar après l'apprentissage. Pour aller où? Jamais il ne pourra la garder, lui donner ne serait-ce qu'un minuscule salaire. Alors elle parle de Jean, s'enflamme, annonce qu'il a un grand avenir, qu'il fera le tour du monde. Mais la mère grimace, comme si la passion et le talent de son fils étaient une maladie grave. Daniel ressemble au père. Elle a son grand nez et son menton en galoche. Daniel est si différente de Jean. Les mystères de la génétique fascinent Colette. Les fées se penchent-elles vraiment sur certains berceaux? Le dimanche après-midi, Georgette est de repos. Après le repas, elle fait la sieste avec la petite. C'est le jour où Jean n'a pas droit au piano. C'est le marquis qui l'a interdit. Alors il écoute son émission de radio, émerveillé par les sons émis. Des sonates,
des pièces musicales, des concerts symphoniques en différé ou en direct. Ou, selon la saison, le froid, le jour qui tombe, Blaise, Colette et lui se baignent dans le petit étang en contrebas, se promènent, cueillent des fleurs, ramassent des champignons, des mûres, font du vélo. C'est le dimanche après-midi qu'elle retrouve la main de Jean dans la sienne. Et à présent, cette main lui apparaît ensorcelée. Lorsqu'il est l'heure de rentrer, Blaise la redescend sur son porte-bagages devant la cordonnerie. Et s'il pleut ou s'il gèle, c'est la marquise qui sort l'auto pour la raccompagner. Avant de repartir, un baiser sur la joue et les mots de Jean à son oreille.
« Je crois que j'aime pas trop, maman. Ça peut me porter malheur ?»«
L'amour, ça peut partir et puis revenir. T'inquiète pas. À dimanche. »